Vous écoutez On lit pour vous.
De nouveaux médicaments soulagent la migraine, encore faut-il y avoir accès. Un texte de Laurence Niozzi, paru le 14 novembre 2024 dans Québec Science. Ces dernières années, de nouveaux médicaments contre la migraine sont arrivés sur le marché canadien, mais trop peu de gens peuvent en bénéficier, déplorent les spécialistes. La tête prise dans un étau ou dans un piège à ours, c'est en ces mots que Guillaume, prénom fictif, décrit la douleur lancinante avec laquelle il a appris à vivre depuis 15 ans. Cette douleur qui peut surgir à tout moment, au travail, à la maison ou pendant ses activités physiques ou sociales. D'autant que, dans son cas, les déclencheurs peuvent être le sport, l'alcool, le café ou encore une mauvaise nuit de sommeil. Tu tiens compte de la migraine dans tout, comme dans une analyse coût-avantage. Est-ce que le deuxième café va me causer une migraine? En vaut-il la peine? C'est une gestion mentale constante, affirme le quadragénaire, dont les douleurs s'accompagnent de nausées, de pertes d'équilibre, de difficultés à marcher et même à formuler des pensées cohérentes. Guillaume souffre de migraines, comme de 8 à 12 % de la population canadienne. Caractérisé par des crises récurrentes de douleurs à la tête, une hypersensibilité à la lumière et au bruit, et souvent des nausées et des vomissements, le trouble neurologique pèse lourd sur la qualité de la vie des personnes touchées. Il nuit à leurs relations interpersonnelles, tout comme à leur vie professionnelle, marquée par une perte de productivité. Ce n'est pas pour rien que l'Organisation mondiale de la santé classe les maux de tête dans leur ensemble parmi les maladies les plus incapacitantes. Malgré la charge considérable qu'elle représente pour la santé publique, la migraine reste l'une des pathologies les plus stigmatisées, les moins financées et les moins reconnues. De nombreuses personnes touchées par la migraine n'ont pas accès aux soins standards ou n'en bénéficient pas, même dans les pays à revenus élevés, déploraient des neurologues dans The Lancet Neurology en 2019. Heureusement, le vent tourne tout doucement, grâce à l'arrivée de traitements qui ciblent, pour la première fois, un mécanisme en cause dans l'affection. Mille et une migraines. Avant d'entrer dans les détails, un portrait s'impose. Bien que connu depuis des millénaires, la migraine est encore mystérieuse, même si on sait qu'elle possède une forte composante génétique. Et malgré des décennies de recherche, ce qui se passe dans le cerveau lors d'une crise reste flou. Alors qu'on parle de la migraine, celle-ci a en fait des centaines de visages différents. Ce qui déclenche les crises varie d'une personne à l'autre. Le stress, la fatigue, certaines odeurs, les changements d'alimentation, la qualité de l'air, mais aussi les variations hormonales, comme les règles, la ménopause ou la grossesse. Le pic de prévalence se situe entre 20 et 50 ans et les femmes sont 3 fois plus nombreuses à en souffrir que les hommes. La fréquence des crises est, elle aussi, variable, allant de quelques épisodes par an à plusieurs par mois. On estime même qu'à n'importe quel moment, de 1 à 2 % de la population présente des migraines survenant plus de 15 jours par mois depuis au moins 3 mois. Guillaume, de son côté, est passé par une vaste gamme de médicaments en vente libre pour soulager ses maux. Tylenol, Advil, naproxène, codéine. Seuls les triptans, des médicaments de crise spécifiques à la migraine, prescrits par son médecin il y a 1 an, lui ont permis de retrouver un semblant de vie normale. C'est le seul traitement qui fonctionne à tous les coups, ou presque, dit-il. À ce chapitre, Guillaume est plutôt chanceux. les études montrent que les triptans, mis au point dans les années 1990, interrompent la douleur dans les 2 heures suivant le début des symptômes, quoique chez seulement la moitié des personnes environ. Outre leur efficacité variable, ces médicaments, qui entraînent une constriction des vaisseaux sanguins, sont contre-indiqués pour les personnes aux prises avec des maladies cardiovasculaires ou de l'hypertension. Résultat, pour bon nombre de personnes atteintes de migraines, réfractaires aux antidouleurs ou aux triptans, il faut endurer le calvaire. C'est là que les anti-CGRP, une famille de médicaments qui se déploie sur le marché depuis 2018, font figure de révolution. Ça change la game, estime Elisabeth Leroux, neurologue spécialiste des céphalées et cofondatrice de Migraine Québec, un organisme qui vise à informer les personnes affectées par la maladie et à briser leur isolement. Elle voit dans cette nouvelle classe de médicaments, fruit de plus de 40 ans de recherche, une grande découverte neurologique. En médecine, des avancées sur les rats, il y en a souvent. Mais des changements dans la pratique, ce n'est pas très fréquent. Dans le cas de la migraine, avoir des traitements spécifiques basés sur notre compréhension scientifique de la maladie, ça contribue à déstigmatiser le trouble, relève-t-elle. Vous écoutez, de nouveaux médicaments soulagent la migraine, encore faut-il y avoir accès, un texte de Laurence Niozzi, paru le 14 novembre 2024 dans Québec Science. Variation sur un même thème. La migraine peut prendre de nombreuses formes, même si, en général, les maux de tête, souvent ressentis d'un seul côté et par pulsation, évoluent par crise. Celle-ci dure, en l'absence de traitement, de 4 à 72 heures. L'International Headache Society en dénombre plusieurs types et sous-types, dont l'intensité et les symptômes varient. Il existe, par exemple, des migraines avec ou sans aura, des migraines hémiplégiques, qui peuvent être isolées ou familiales, des formes chroniques, des formes rares, qui altèrent la vision d'un seul côté, etc. La migraine touche aussi les enfants. On estime que la prévalence est comprise entre 5 et 10%. Cibler le mécanisme en cause. De fait, ces médicaments ciblent pour la première fois une protéine directement impliquée dans le mécanisme de la migraine. Nommée CGRP pour peptide lié au gène de la calcitonine en anglais, elle facilite la propagation des signaux de douleur le long des nerfs. Son taux dans le sang augmente fortement durant les crises migraineuses. Le ciblage du CGRP a d'abord fait ses preuves pour diminuer la fréquence des crises. Ainsi, depuis 2018, 4 anticorps monoclonaux ont été autorisés au Canada. L'irénumab, le frémanezumab, le galcanezumab et l'eptinezumab, vendus sous les noms de marques Aimovig, Ajovy, Emgality et Viepti. En s'accrochant au CGRP, ces anticorps l'empêchent d'agir. Ils sont injectés par voie sous-cutanée ou intraveineuse à titre préventif tous les mois ou tous les 3 mois. Dans les 2 dernières années, Santé Canada a également approuvé une autre classe de médicaments ciblant le CGRP, les GEPAN, utiles pour court-circuiter les crises, mais aussi pour les prévenir, ils bloquent, quant à eux, les molécules réceptrices du CGRP. Autrement dit, ils empêchent le CGRP de déclencher sa cascade douloureuse. Ils sont administrés par voie orale. On compte l'ubrogepant, l'atogepant et le rimegepant vendus sous les noms de marques Ubrelvie, Culipta et Nurtec. Les gépants sont mieux tolérés que les triptans et ne causent pas de problèmes de toxicité ni de rebond céphalé causé par une surconsommation de médicaments, précise la docteure Leroux. Heather Pym, directrice de la clinique des céphalées du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, considère elle aussi qu'on vit un moment excitant dans la lutte contre la migraine. Les nouveaux traitements ont radicalement amélioré la qualité de vie de certains de ces patients et patientes. Ainsi, l'un d'eux est passé de 25 jours de migraine par mois à un seul. C'est incroyable, s'exclame la neurologue et présidente actuelle de Migraine Québec. Évidemment, il y a des super répondants qui représentent environ 10% des cas, mais la plupart des patients ont vu une amélioration. Un mal incompris. Hélas, tout le monde ne profite pas de ces progrès. D'abord, parce que les anti-CGRP eux-mêmes ne semblent efficaces que dans 30 à 60% des cas, selon les études. Ensuite, et surtout, parce qu'en dépit des avancées scientifiques, la migraine demeure mal connue et peu prise en charge au pays. La maladie est minimisée par la société, le milieu de travail et les médecins. On assiste à une magnifique histoire de science et là, on se retrouve avec des patients qui n'ont pas accès au traitement, déplore la docteure Elisabeth Leroux. La maladie est invisible, touche de manière disproportionnée les femmes et n'est pas mortelle. Les crises finissent toujours par se calmer d'elles-mêmes. Autant d'ingrédients qui desservent la cause des patients et des patientes, estime la spécialiste. D'ailleurs, le tiers d'entre eux se sentent stigmatisés, ce qui pèse sur leur qualité de vie et s'ajoute au fardeau. Pour la docteure Leroux, la clé est l'éducation des futurs médecins, en particulier des médecins généralistes, car rares sont les personnes souffrant de migraines qui ont accès à un suivi en neurologie. Ça prend plus de formation et un système pour clarifier la prise en charge. Il y a des lignes directrices, certes, mais encore faut-il que les médecins les connaissent et les appliquent, souligne la neurologue qui prône la mise en place au pays d'un réseau de cliniques spécialisées avec des équipes multidisciplinaires comme il en existe aux États-Unis et en Europe. En fait, même les triptans sont largement sous-prescrits. C'est ce qu'a dénoncé une méta-analyse publiée à l'automne dernier qui a analysé 137 essais cliniques menés sur un total de 90 000 personnes. Le but était de comparer l'efficacité de 17 traitements de crise. Bilan, ce sont les triptans, en particulier l'érythriptan, qui arrivent en tête. Il reste donc des options de choix et les gépants enrichissent l'arsenal. Encore faut-il que toutes ces options soient proposées aux malades. Parfois, les médecins ne se sentent pas outillés en raison d'effets secondaires potentiels ou des risques, reconnaît Jonathan Hudon, médecin de famille à l'unité Allen Edwards de gestion de la douleur du Centre universitaire de santé McGill. Les champs de la médecine familiale sont vastes, rappelle-t-il. Et se garder à la fine pointe des connaissances de chacun d'eux, en plus de connaître chaque nouvelle molécule sur le marché, demeure un défi constant. Vous écoutez « De nouveaux médicaments soulagent la migraine, encore faut-il y avoir accès », un texte de Laurence Niozzi, paru le 14 novembre 2024 dans Québec Science. Dans les derniers mois, Guillaume a commencé à souffrir de migraines de rebond causées par les triptans, un effet secondaire bien connu de ce traitement. En consultation, son médecin de famille a préféré lui prescrire un traitement préventif classique, mais non ciblé, l'amitriptyline, un antidépresseur plutôt qu'un gépant, casse-crise, suggéré par sa pharmacienne. Les antidépresseurs, les antihypertenseurs et les médicaments contre l'épilepsie sont certes efficaces dans certains cas pour prévenir les migraines, souligne Elisabeth Leroux, mais ils ne sont pas ciblés. Or, la prise de gépants pour traiter les crises peut aussi aider à diminuer leur fréquence. C'est une approche intéressante, mais la plupart des médecins de famille ne sont pas au courant de l'existence des gépants, déplore-t-elle. Les compagnies d'assurance viennent en outre compliquer la tâche des médecins. En raison du coût élevé des anticorps anti-CGRP et des gépants préventifs, environ 500 à 600 $ par mois, les assurances remboursent ces médicaments seulement si les patients et patientes ont essayé au préalable et sans succès de 2 à 3 traitements oraux comme les antidépresseurs, qui sont 10 fois moins chers. De nouvelles protéines dans le viseur. Si la science a fait de grandes avancées dans les dernières décennies, le casse-tête de la migraine n'est pas encore résolu. À preuve, une étude danoise menée sur des souris et publiée dans la revue Science a fait parler d'elle cette année. Elle propose un tout nouveau mécanisme pour les migraines avec aura. Les auras sont des troubles neurologiques transitoires, comme des troubles visuels, flash, point lumineux, vision trouble, des troubles moteurs ou du langage, qui précèdent la crise de quelques minutes et affectent de 20 à 30% des migraineux et migraineuses. Les scientifiques de l'Université de Copenhague ont trouvé le canal de communication, jusqu'ici inconnu, entre le cerveau et les nerfs qui causent la douleur. Ils ont montré que des protéines sécrétées pendant l'aura cheminent directement dans le liquide céphalo-rachidien, LCR, dans lequel baigne le cerveau, jusqu'à un centre nerveux appelé ganglion trigéminal. Ce ganglion joue un rôle crucial dans la migraine. C'est de là que partent les nerfs sensoriels qui irradient vers le visage et qui causent la douleur. Cette découverte pourrait mener à de nouveaux traitements. Ce qui est passionnant, c'est que nous avons un tout nouvel ensemble de molécules à étudier dans le LCR qui pourraient être utiles dans la conception de traitements pour les personnes qui ne répondent pas ou peu aux bloqueurs du CGRP, souligne Martin Kaag Rasmussen, auteur principal de l'étude. Le chercheur a espoir que la découverte de traitements s'accélérera. La neurologie en général n'a pas tant évolué au cours des 50 à 60 dernières années, mais j'ai l'impression que ça commence à bouger. Les traitements développés avec les anticorps anti-CGRP ont montré une voie à suivre, croit le post-doctorant au Centre de neuromédecine translationnelle de l'Université de Copenhague. Il entrevoit, dans un avenir plus ou moins rapproché, le développement d'un traitement totalement personnalisé selon la production de protéines de chaque patient ou patiente. On pourrait alors adapter le traitement à la personne avec un catalogue d'anticorps cliniquement approuvés et bloquant différentes protéines impliquées dans la migraine, espère-t-il. Elisabeth Leroux est aussi d'avis qu'il n'y aura jamais de traitement universel et que les approches devront être personnalisées. Quant à guérir la migraine pour de bon, l'espoir est infime, car la migraine est trop multifactorielle. Par contre, la neurologue reste optimiste. On contrôlera la douleur et les autres symptômes d'une excellente façon, se réjouit-elle. Hygiène de vie. Outre les médicaments, le docteur Jonathan Hudon rappelle aussi l'importance d'une approche globale qui inclut des traitements non pharmacologiques. L'exercice régulier, un sommeil réparateur et une alimentation saine peuvent aussi aider à combattre la migraine, note-t-il. La prise d'oméga-3 présent dans les poissons gras, comme le saumon, peut réduire la fréquence des crises. C'était De nouveaux médicaments soulagent la migraine, encore faut-il y avoir accès, un texte de Laurence Niozzi, paru le 14 novembre 2024 dans Québec Science.
L'argent comptant, une espèce en voie de disparition. Un texte d'Annabelle Caillou, paru le 4 janvier 2025 dans Le Devoir. Déjà 25 ans depuis l'an 2000, Le Devoir replonge dans un quart de siècle jalonné par des événements marquants et de nouvelles tendances qui façonnent encore notre société. Dans cet article, l'essor des paiements numériques et la disparition de la monnaie. Chaque week-end, c'est la même rengaine. Noémie Martin retire 20 $ à la banque. Les bras chargés de sacs de vêtements, elle file ensuite à la buanderie du coin. Elle sort son billet et l'insère maladroitement dans la machine à monnaie pour le transformer en petites pièces de 1 $ et de 25 cents. « J'ai encore de la misère à les différencier », plaisante-t-elle à moitié, en fixant le butin dans ses mains avant de se diriger vers la première laveuse disponible. En quittant le cocon familial cet automne pour s'installer à Montréal, l'étudiante de 19 ans ne pensait pas que laver son linge deviendrait une telle épopée. Sortir pour faire mes lessives, ça va. Le problème, c'est surtout que je n'ai jamais de cash sur moi et malheureusement, ma buanderie n'est pas encore arrivée dans le monde moderne, lance-t-elle, sarcastique. Hormis sa nouvelle routine de lavage, elle pourrait compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où elle a dû payer en argent comptant. J'ai toujours utilisé mes cartes de crédit et de débit ou mon sel. Ça n'a aucun sens d'être obligé de payer en cash aujourd'hui. Avec le développement des modes de paiement numérique, l'usage du billet et de la monnaie a décliné à vitesse grand V ces dernières années dans les habitudes des consommateurs. En 2009, les transactions en argent comptant représentaient encore environ 54 % du volume total des transactions au Canada, selon les données de la Banque du Canada. En 2023, cette proportion atteignait à peine 20 % Les transactions par carte de crédit sans contact, technologie connue sous le nom de PayPass, ont à l'inverse explosé, passant de 1 % du volume total des transactions en 2009 à 33 % en 2023. C'est aujourd'hui le moyen de paiement le plus utilisé par les Canadiens. Plus simple par carte. Les gens préfèrent payer par carte ou avec leur sel parce que c'est plus simple, plus rapide. Il suffit de taper sur la machine plutôt que de se mettre à compter son argent en espérant en avoir assez et ne pas devoir retirer au guichet, explique Philippe Goulet-Coulombe, professeur d'économie à l'UQAM. Selon lui, si la tendance était déjà là depuis le début des années 2000, elle n'a fait que s'accélérer avec la pandémie de COVID-19. Inquiet d'une transmission du virus par l'échange de monnaie et de billets, nombre de Canadiens ont naturellement délaissé ce moyen de paiement durant la crise sanitaire, lui préférant la technologie du PayPass. Beaucoup de commerces qui n'étaient pas encore passés au numérique ont ainsi dû se munir d'un terminal pour rassurer les consommateurs. Rares sont les endroits qui exigent encore de régler uniquement en argent comptant. C'est l'inverse même qui se produit. Des commerces et des restaurants refusent désormais l'argent liquide. C'est le cas de la chaîne David's Tea ou encore de la marque Jack and Jones. À Montréal, la pizzeria Fugazi, le marché Time Out, la foire alimentaire du centre Eaton ou encore le Central au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine refusent aussi l'argent liquide. On sous-estime la complexité en comptabilité d'avoir du cash en magasin et de devoir compter sa caisse en début et en fin de journée. Ça demande du temps et une certaine compétence qui n'est pas donnée à tous, explique Damien Silès, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail. Ne pas avoir d'argent comptant en boutique évite aussi les risques de vol, selon lui. Vers la fin de la monnaie, la tendance est lourde. Je n'imagine pas un retour en arrière. On s'en va clairement vers une disparition de la monnaie, croit-il. Philippe Goulet-Coulombe abonde en ce sens. Tout le monde va au même endroit, mais la vitesse est différente d'un pays à l'autre. Il y a des pays dans le monde où la carte n'est pas encore acceptée pour les transactions quotidiennes, et dans d'autres, comme la Suède, il y a encore moins d'argent comptant qui circule que chez nous. La monnaie va-t-elle complètement disparaître pour autant? On n'en aura plus un jour, mais ça peut prendre encore du temps, croit le professeur Goulet-Coulombe. Pourtant, d'après le dernier coup de sonde de la Banque du Canada, 80% des Canadiens ne prévoient pas d'arrêter d'utiliser de l'argent comptant. Seulement 13% ont déclaré ne déjà plus l'utiliser et près de 7% y songent à court ou moyen terme. Dès que le système tombe en panne, c'est un désastre. On se retrouve complètement démuni, reconnaît Damien Silès. La technologie aura toujours des failles. C'est bien d'avoir toujours un peu d'argent comptant de côté, si jamais. Est-ce légal de refuser l'argent comptant? Réponse courte, oui. Aucune loi au Canada n'oblige un commerçant à accepter un mode de paiement plutôt qu'un autre. Si le commerçant avise très clairement le consommateur qu'il refuse l'argent comptant, c'est tout à fait légal, explique Alexandre Plourde, avocat et analyste à Options Consommateurs. L'organisme déplore toutefois ce vide juridique depuis des années. Il souhaite que le gouvernement fédéral renforce sa loi sur la monnaie afin de forcer les entreprises à accepter l'argent comptant. Refuser l'argent comptant est une forme d'exclusion, fait valoir M. Plourde. Les personnes les plus défavorisées, les personnes à faible revenu ou les itinérants, par exemple, n'ont pas forcément accès à un compte bancaire et utilisent l'argent comptant. Il y a aussi des gens qui ont un compte, mais pas accès à une carte de crédit. On peut aussi penser aux aînés qui peuvent être moins habiles avec les technologies. Pour la majorité des commerces acceptant encore l'argent comptant, légiférer maintenant ne représenterait pas un grand fardeau, selon lui. Plus on attend que le refus du comptant se généralise, plus ce sera difficile de forcer les commerçants à l'accepter de nouveau. C'était « L'argent comptant, une espèce en voie de disparition », un texte d'Annabelle Cailloux paru le 4 janvier 2025 dans Le Devoir.